militaire en rejette toute implication dans l'attaque de la base américaine située à la frontière jordanienne avec la Syrie. Trois combattants du Hamas ont été tués à l'hôpital Ibn Sina à Jenin par les forces spéciales israéliennes. Les employés du gouvernement américain entament une grève de la faim pour protester contre le soutien de Biden à Israël. C'étaient les principaux titres. En voici le journal. L'ambassadeur permanent de la République islamique d'Iran auprès des Nations Unies a catégoriquement rejeté les accusations portées par les États-Unis concernant l'implication de l'Iran dans des opérations anti-américaines dans la région de l'Asie de l'Ouest. Le représentant permanent de l'Iran auprès des Nations Unies, Amir Saidi Ravani, a fait ses commentaires dans une lettre adressée lundi 29 janvier au président du Conseil de sécurité de l'ONU. Cette lettre est intervenue trois jours après que son homologue américaine, Linda Thomas Greenfield, a écrit une lettre au Conseil de sécurité, alléguant que des milices affiliées aux forces armées de la République islamique d'Iran étaient impliquées dans des actions contre le personnel et les installations américaines en Irak et en Syrie. Iravani a affirmé sans équivoque qu'aucun groupe affilié aux forces armées de la République islamique d'Iran, que ce soit en Irak, en Syrie ou ailleurs, ne paierait directement ou indirectement sous le contrôle de la République islamique d'Iran ou qu'il n'agissait en son nom. Par conséquent, l'Iran n'est pas responsable des actions d'un individu ou d'un groupe dans la région, a souligné l'ambassadeur iranien à l'ONU. Au cours des dernières années, les groupes de résistance irakiens ont mené de nombreuses attaques contre des bases militaires abritant les forces d'occupation américaines en Irak et en Syrie voisine. Les médias palestiniens ont rapporté ce mardi matin 30 janvier qu'une force spéciale israélienne avait assassiné trois jeunes palestiniens à l'hôpital Ibn Sina de Jenin, en Cisjordanie occupée. Selon des informations préliminaires, les forces israéliennes ont attaqué le troisième étage de l'hôpital et assassiné les trois Palestiniens à l'aide d'armes silencieuses, puis se sont retirés des lieux. Plus tard, les brigades al-Rassam, l'aile militaire du Hamas, ont annoncé dans un communiqué qu'un groupe de leurs combattants de la résistance était tombé en martyr dans une lâche opération d'assassinat menée par une force spéciale israélienne qui a infiltré l'hôpital Ibn Sina. Auparavant, les forces d'occupation israéliennes avaient mené des incursions à grande échelle dans diverses zones de la Cisjordanie. Dans la partie nord d'Al-Khalil, les forces d'occupation ont attaqué la ville de Sorif et le camp de réfugiés d'Al-Aroub, où elles ont arrêté le prisonnier libéré Mouayad al-Sharabi, ainsi Kaysar Rabah Fidalat. Les forces d'occupation israéliennes ont également attaqué la ville d'Azoun, à l'est de Al-Hiriya, et la zone orientale de la ville de Naplous, où les combattants de la résistance palestinienne ont affronté les forces de l'assaut avec des coups de feu. Pendant ce temps, les combattants de la résistance palestinienne ont affronté les forces israéliennes lundi soir lors de leur incursion dans le camp de réfugiés de Tul Karim en Cisjordanie. Les médias palestiniens ont rapporté que la résistance a tiré sur un bulldozer de l'occupation israélienne dans le quartier d'Al-Murata, dans le camp, et a attaqué les forces du RAD avec des engins explosifs. À Gaza, 25 civils ont été tués et plusieurs autres ont été blessés lors d'une frappe aérienne israélienne contre la maison de la famille Hamada dans le quartier d'Al-Tufa, à l'est de la ville de Gaza. Un autre rapport indique que des avions israéliens ont visé une maison dans le district de Sabra, dans la ville de Gaza, tuant au moins 20 personnes, pour la plupart des enfants et des femmes, et en blessant plusieurs autres. Des avions militaires israéliens ont également lancé des raids aériens sur le camp de réfugiés de Nuseirat dans le centre de la bande de Gaza. L'artillerie de l'armée d'occupation a également visé les environs d'un immeuble résidentiel à Khan Younes dans le sud de Gaza. Plus de 116 jours après le début de l'agression israélienne, le régime de Tel Aviv n'a pas réussi à atteindre ses objectifs dans la bande de Gaza, bien qu'il a tué au moins 26 637 Palestiniens, pour la plupart des femmes et des enfants, et blessés, 65 387 autres. Les États-Unis et la Grande-Bretagne ont mené de nouvelles frappes aériennes sur le Yémen, défiant les critiques selon lesquelles de telles attaques constituent une violation de la Charte internationale et de la Charte des Nations Unies. La chaîne Telegram Sabahi News, affiliée aux forces de la résistance, a rapporté mardi 30 janvier que des avions de combat américains avaient ciblé des zones situées dans la province de Sada, au nord du Yémen. Certaines sources non officielles ont également fait état d'une explosion dans la capitale Sanaa, qui n'a pas été confirmée par l'armée yéménite. Le 18 janvier, le tandem américano-britannique a lancé la quatrième série de ses attaques contre les positions des forces armées yéménites. La chaîne d'information américaine CBS, citant des responsables américains, avait affirmé que la nouvelle série d'attaques contre le Yémen incluait des sites qui étaient prêts à attaquer les positions des États-Unis. La chaîne d'information yéménite Al-Masira a également confirmé les frappes aériennes américaines et britanniques, précisant que les attaques incluaient les provinces de Hudaydah, Saada, Taiz, Damar et Al-Baïta. Les États-Unis et le Royaume-Uni, soutenus par certains de leurs alliés occidentaux ainsi que Bahreïn, ont bombardé le Yémen à plusieurs reprises au cours des trois dernières semaines, dans l'objectif de garantir les intérêts israéliens dans la région. Les employés de plus de deux douzaines d'agences gouvernementales américaines prévoient une grève de la faim jeudi 1er février pour protester contre la politique de Biden à l'égard de la bande au Gaza, déchirée par la guerre, et contre l'utilisation par Israël de la famine comme arme de guerre dans l'enclave assiégée. FETS United for Peace, représentant les employés de 27 agences et départements du gouvernement américain, a déclaré que la journée de jeûne pour Gaza vise à attirer l'attention sur la crise humanitaire à Gaza. Les employés fédéraux participants doivent se présenter à leur bureau vêtus de noir ou portant des foulards kefia ou d'autres symboles de solidarité palestinienne. Un employé fédéral s'exprimant au nom du groupe a cité un rapport de l'ONU selon lequel jusqu'à 2 millions de personnes dans le territoire sont menacées de famine, affirmant que la journée de jeûne est une réponse à l'utilisation par Israël de la famine comme arme de guerre, en retenant intentionnellement la nourriture d'entrée à Gaza. FATS, United for Peace, représente les ministères de la Défense, de la Sécurité intérieure et de l'État, et comprend entre autres des fonctionnaires de carrière et des personnes nommées politiques. Les groupes ont déclaré qu'ils s'attendent à ce que des centaines d'employés du gouvernement y participent. Le groupe a également organisé une grève des bureaux en solidarité avec les Palestiniens au début du mois, ce qui a suscité des réactions à Washington, les responsables de la sécurité nationale des deux parties qualifiant leur manifestation d'insubordination. La Corée du Nord a tiré plusieurs missiles de croisière mardi 30 janvier au large de sa côte ouest, selon l'armée sud-coréenne, dernier lancement en date d'une série d'essais d'armement conduits par Pyongyang cette année. Séoul a détecté plusieurs missiles de croisière lancés dans la mer de l'Ouest vers 7h heure locale, 22h GMT lundi, indiqué l'état-major interarmé sud-coréen dans un communiqué. Les agences de renseignement de Washington et Séoul sont en train de conduire une analyse détaillée de ces tirs. Pyongyang a multiplié cette année les essais d'équipements militaires, testant notamment ce qu'il a décrit comme un système d'armement nucléaire sous-marin et un missile balistique hypersonique à combustible solide. Lundi, les médias d'État ont annoncé que le numéro 1 nord-coréen, Kim Jong-un, a supervisé le tir d'essai de deux missiles de croisière de nouvelle génération lancés à partir d'un sous-marin. Sur des photos publiées par l'agence de presse officielle nord-coréenne KCNA, un missile s'est levé vers le ciel depuis une étendue d'eau, laissant derrière lui une colonne de fumée blanche. Voilà, si ça achève le journal, merci de l'avoir suivi. Restez à l'écoute du commentaire politique. Pourquoi le lancement simultané de trois satellites iraniens est-il important? L'Iran a envoyé avec succès trois autres satellites indigènes dans l'espace, poursuivant ainsi ses progrès phénoménaux dans le domaine scientifique et technologique, malgré de nombreux obstacles. Pour la première fois dimanche, l'Iran a mis simultanément en orbite trois satellites, Marta, Kayhan 2 et Hatef 1, avec le lanceur de satellites Simorgh, développé par le ministère de la Défense. Le premier lancement réussi dimanche de plusieurs satellites avec une altitude record de 1100 km a été réalisé avec Simorgh, qui a la réputation d'être le plus grand transporteur de satellites du pays. Cela s'est produit environ une semaine après que le corps des gardiens de la révolution islamique a lancé avec succès le satellite indigène Soraya avec une fusée porteuse Raem-100, établissant une altitude record de 750 km. Il est important de noter que ces lancements de satellites ont eu lieu avant le 45e anniversaire de la victoire de la révolution islamique de 1979 et marquent la marche galopante du programme spatial iranien. Quels satellites ont été lancés? Les trois satellites lancés dimanche sont Mahta, Hatif 1 et Keihan 2 et ils ont été placés à une apogée altitude maximale de 1100 km et un périgée altitude minimale de 450 km. Mahta est un satellite de recherche conçu, fabriqué, assemblé et testé au Centre iranien de recherche spatiale ISRC, une filiale du ministère des Communications et des Technologies de l'Information. Pesant 32 kg, il s'agit d'un satellite léger, développé pour tester des sous-systèmes satellitaires avancés. Et sa tâche principale est d'évaluer les performances du transporteur Simorgh lors de plusieurs lancements de cargo spatial en orbite terrestre basse, LEO, selon le communiqué du ministère de la Défense. Les autres tâches de Mahta comprennent l'examen des performances du porte-satellite et l'évaluation de nouvelles conceptions de satellites, ainsi que la fiabilité des technologies iraniennes indigènes dans l'espace. Les nanosatellites Hatif 1 et Keihan 2, pesant tous deux moins de 10 kg, ont été conçus et développés pour leur lancement par les industries électroniques iraniennes, IEI, une filiale publique du ministère de la Défense. Keihan 2 est développé pour le positionnement spatial et dispose de sous-systèmes de détermination de statut et de contrôle pour viser de manière stable et précise vers la Terre. Hatif 1 cherche à prouver l'utilisation de la technologie de communication à bande étroite dans l'Internet des objets.